Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ça a commencé avec un SMS que j'ai reçu il y a 2 semaines. Un ami que j'estime beaucoup donnait des nouvelles plutôt bonnes de son confinement. Pas à se plaindre, boulot, DVD, gros bouquins, balade nocturne. Il ajoutait, aime même dénicher un petit café clandestin ou boire le jus le matin, façon Chicago, prohibition. Il faut dire que cet ami, il en a vu d'autres, et des vrais, de guerre. Rien ne dit, d'ailleurs, qu'il ne respecte pas les gestes barrières dans son troquet clandestin ou qu'il ne porte pas de masque les buveurs du matin. Car cet ami est un type responsable et je suis sûre qu'il n'a aucune intention de se mettre en danger, lui ni ses proches. Mais est-ce que ce sont des raisons suffisantes pour ne pas respecter la règle? Et s'il y en a 10, 100, 1000 qui se mettent à ouvrir des cafés clandestins, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à toutes les dérives, à l'anarchie? Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument de la pente glissante, généralement utilisé par les plus conservateurs. Certains pensent également que le confinement obligatoire contrevient aux libertés individuelles, comme les manifestants ultralibéraux américains pro-Trump qui affirment « le communisme tue plus que le Covid-19 ». Sans aller aussi loin, est-ce que chacun ne devrait pas être libre d'adapter les règles de son confinement à sa propre appréciation du danger et à la superficie de son logement, par exemple? Ou est-ce qu'il faudrait des règles mieux faites qui prennent en compte les inégalités face au confinement? A l'inverse, faudrait-il être plutôt covido-cancien, se dire que la règle, c'est la règle, qu'on la respecte scrupuleusement, même s'il n'y a pas un flic derrière nous pour mettre une amende. Car elle est faite, dans la circonstance, pour être suivie un peu bêtement, même si on n'est pas super d'accord avec la manière dont la crise est gérée, ou avec la règle elle-même. Car c'est sans doute le plus prudent pour soi et les autres. Pour réfléchir à toutes ces questions, morales, civiques, voire politiques plus que sanitaires, tout de suite dans les pieds sur terre, 3 histoires sans réponse. Les 2 premières interrogent directement les lois sur le confinement et la 3e raconte l'histoire d'une bergère qui continue à vivre à peu près comme avant et ouvre le débat. Ceux qui sortent, par Clément Baudet, c'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Bruno, j'ai 45 ans, j'habite à Lille. C'est difficile de perdre une habitude qu'on prend tout au long de l'année. Donc je connais beaucoup d'établissements et je sors beaucoup et j'en fréquente beaucoup. Aussi bien bar à vin avec des vins supérieurs, etc., etc., que le pirate de quartier où on peut sortir et sacrifier la tradition. Et ça devient une espèce de grande famille. Donc, quand cette histoire de confinement est arrivée, on s'est dit que ce serait peut-être sympa de se revoir sans contrainte, sans comme si de rien n'était. Alors que on a tous conscience quand même que les circonstances ne sont pas forcément propices ou les mêmes que quand on se voit traditionnellement. Comme nous avions l'habitude de nous retrouver dans un bar à vin à Lille, j'ai donc pris mon téléphone pour dire au gérant de ce café dîneur que nous allions débarquer à X personnes le midi pour mettre un petit peu d'animation et essayer de faire revivre pour une journée, une après-midi, l'établissement tel qu'il aurait pu vivre en temps normal. Nous nous sommes donné rendez-vous à une certaine heure, et tout le monde est arrivé portant ce qu'il voulait un peu à l'auberge espagnole, et voilà. L'établissement a la chance d'avoir une porte secondaire, parce qu'il n'était pas question de lever les persiennes ou quoi que ce soit, et donc du coup... comme nous avions les numéros de téléphone des uns et des autres, nous nous appelions quand nous étions devant cette porte secondaire. Tout le monde est arrivé un petit peu en décalé, selon les horaires qu'il pouvait. Alors certains avaient des attestations professionnelles de libre circulation de par leur profession, et d'autres effectivement avaient coché sur l'attestation « rendre visite à une personne vulnérable ». Puis après tout, le gérant est une personne vulnérable psychologiquement en ce moment. Forcément, de ne plus voir de monde, ça lui fait un choc psychologique quand même. Il n'y a pas que le fait de ne plus avoir de chiffre d'affaires, il y a aussi le fait de ne plus avoir tout ce mouvement permanent et de rencontrer les uns et les autres. Alors moi, personnellement, je suis arrivé avec 3 bouteilles de vin, j'avais fait cuire une clipérade et j'avais acheté des côtes de veau pour tout le monde. D'aucuns est venu avec la bière pour l'apéro, parce que dans le Nord, s'il n'y a pas de bière, c'est pas un vrai apéritif de chez nous. D'autres sont arrivés avec le dessert, et du coup, le gérant s'est mis à ses fourneaux avec tout ce qu'on lui avait ramené. Je pense que c'était la personne la plus émue de nous tous, quoi. Et on a essayé de rester cohérent quand même pour faire un plat qui se suit, en ayant demandé aux uns et aux autres en amont ce qu'ils pouvaient ramener si on faisait tel ou tel plat. Et donc, ça s'est très bien passé comme ça. Nous étions 8. Nous avions une consultante, nous avions un médecin, nous avions un expert comptable, nous avions un journaliste, nous avions moi qui suis dans le domaine de la santé mais côté administratif, nous avions forcément la personne qui tient le bar, une retraitée du quartier et voilà. Nous avons respecté un petit peu une certaine tradition de ce déjeuner très français où on commence au comptoir et on finit à table. Nous sommes dans le Nord, les héritiers de ces grands banquets flamands que Bruegel a si bien dépeints. Donc beaucoup de convivialité. Donc on commence à une certaine heure en choquant le cristal pour l'apéro. Et puis ça se prolonge autour d'un petit plat canaille avec des vins qui vont bien. Et c'est le moment d'échanger. Et les uns et les autres ont participé comme ça en remettant aussi un petit crémant pour terminer, un petit pétillant pour terminer la libation à une heure tardive, quoi. L'idée, c'était vraiment, effectivement, nous sommes tous dans la même pièce, mais à une certaine distance, bon, alors pas forcément les 80 cm ou les 1 mètre, mais on était beaucoup moins proches que d'habitude, on n'était pas collés au comptoir, quoi, hein. Nous étions un petit peu dispersés, disséminés, une espèce, vous savez, d'assemblées de chaises qu'on met au milieu avec des distances comme ça et puis on trinquait de loin. Plus l'heure avance et plus la table est bonne, un petit peu après, il y a beaucoup plus de rapprochement et on oublie un petit peu les gestes barrières. Ça, c'est bien évident. Ça, il faut bien quand même l'avouer. Parce que l'idée, c'est d'être discret pour ne pas créer d'ennui à cette personne non plus, puisque ça peut créer des jalousies. Les mauvais esprits auraient pu s'en donner à cœur joie s'ils avaient su qu'il y avait une espèce de réunion clandestine comme ça dans cet endroit. Donc, les persiennes étaient baissées, c'était la lumière artificielle, donc il y avait vraiment aussi une espèce de climat un peu particulier, mais on essayait de pas trop élever la voix quand même si quelquefois il y a eu beaucoup d'éclats de rire, avec le plaisir de se retrouver, mais on est resté assez discret là-dessus. C'était un beau moment d'émotion et de convivialité. On a besoin de se retrouver dans ce Nord autour de la table. C'est le moment où on lâche un peu prise et où on évacue tous les soucis du quotidien, professionnel, quel qu'il soit. Et là, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est le moment passé autour d'un bon plat, d'un bon vin, avec des amis. Et nous sommes repartis de toute façon aussi par des chemins différents et pas au même moment non plus, disant bon ben est-ce que je les croiserai, est-ce que je croiserai pas les contrôles, on verra bien quoi. Voilà, il n'y a pas d'insouciance, il n'y a pas non plus de peur symptomatique. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'on fasse quelque chose d'illégal. Je ne pense pas que nous soyons dans une illégalité outrancière comparée à d'autres choses de notre société. Comme les ventes à la sauvette dans les rues de certaines substances ou de cigarettes de contrebande, de choses comme ça, qui continue quand même aujourd'hui, nous allons nous réconforter et nous soutenir moralement. Donc, du coup, sans être complètement inconscient de tout ce qui se passe, de toutes les données cliniques ou quoi que ce soit, à un moment, faut savoir relativiser les choses aussi, quoi. C'est pas un risque pour moi, puisque après tout, de toute façon, si on accepte de faire ça, c'est qu'on a un esprit un petit peu rieur et un petit peu libre, c'est l'esprit un peu gaulois, quoi. Je préfère être dans ce rôle-là que d'être en train de me morfondre chez moi, en train d'avoir des idées noires, en train de se demander ce qu'on aurait pu faire, qu'il aurait fallu faire, etc., etc. Je préfère être dans ce rôle de facilitateur de lien social et de se retrouver en toute convivialité avec les uns et les autres, qui ne demandent pas mieux non plus, mais qui n'auraient peut-être pas eu l'idée de le faire, étant attentif à toutes les réglementations diverses et toutes les recommandations qu'on puisse nous faire actuellement. Alors, depuis cette réunion, on s'est revus à d'autres endroits. On se voit après chez les uns, chez les autres aussi. Et je peux vous dire déjà que demain, ce sera la deuxième fois dans un lieu un peu plus emblématique. Eh bien, le programme, c'est de ramener, comme d'habitude, qui le fromage, qui le dessert, qui le vin, qui l'entrée. Le directeur s'occupe, lui, de cuisiner le plat principal et de sacrifier encore un moment de convivialité. Je l'ai dit vraiment dans un cercle très, très restreint, avec des gens, non pas en qui j'ai toute confiance, mais qui ont toute mon amitié. Moi, j'ai rien à prouver, j'ai rien à expier. C'est fait, et je le recommencerai, et je n'aurai pas un seul regret là-dessus.
France Culture, les pieds sur terre.
Moi, c'est Benjamin, donc j'ai 26 ans. Là, actuellement, je suis vendeur au Jouet Club de Mondeville, l'endroit où il y a un grand centre commercial, en fait, auprès de Caen, quoi. Je suis confiné chez moi à domicile, enfin, je ne sors pas du tout, quoi. Alors, donc, du coup, donc, vendredi, donc, avant qu'il y ait le confinement et tout, en fait, donc, avec ma sœur, on a appris que ma grand-mère était en train de partir. Elle était vraiment très mal portante, en fait, elle n'est pas morte du coronavirus. Son état de santé s'est vraiment dégradé au fur et à mesure, quoi. On a passé vraiment tout le week-end à l'hôpital auprès d'elle pour... chacun son tour aller faire des adieux à la grand-mère, enfin du moins pour l'assister déjà jusqu'à la fin, jusqu'à ces derniers moments, pour passer un petit peu de temps avec elle, quoi. Et le samedi, moi malheureusement, je travaille, j'ai pas du tout vu l'hôpital de jour en fait ce jour-là. Moi je suis arrivé le soir, déjà il y avait plus beaucoup de personnel en fait, si vous voulez, dans les couloirs, on était vraiment la dernière famille à rester sur place. À l'étage où était ma grand-mère, il y avait déjà quelques petites consignes qui étaient mises en place, donc une seule personne dans la chambre. Tout entrée du couloir, en fait, vous avez une petite table avec des consignes écrites sur la table, avec du gel hydroalcoolique tout simplement. Ensuite, lundi, elle est décédée, donc en même temps qu'on a annoncé le confinement total. On a vu avec les pompes funèbres et tout ça, en fait, comment s'organiser avec l'hôpital aussi. Chacun est vraiment resté chez soi, en fait, si vous voulez, on s'est tenu au courant, au téléphone et tout. Il y a juste ma mère et ma sœur qui ont été à l'hôpital pour gérer les papiers. Mais sinon, en soi, on a vraiment géré ça de chacun de notre côté, en fait. On s'est juste donné rendez-vous, donc le jeudi, au funérailles, quoi. Ma grand-mère souhaitait vraiment une cérémonie de base dans une église. Disons que c'était quand même assez dur. On a vraiment essayé de faire, enfin de respecter au maximum son choix, quoi, malgré les circonstances, quoi. Donc avec le prêtre, enfin voilà, qui était là, en fait, on lui a demandé comment on pouvait faire pour la cérémonie d'enterrement. Donc pareil avec les pompes funèbres. Et en fait, ils nous ont bien expliqué que on pouvait pas du tout se retrouver dans une église. En fait, on était obligé d'accepter la situation telle qu'elle était, quoi. Il y a eu la mise en bière donc le matin à 9h. Donc nous, on a vraiment respecté donc la règle, une personne pour aller voir le corps en fait du défunt. Donc ça a duré une petite demi-heure, donc on s'est pareil, on était vraiment chacun de notre côté à l'extérieur, quoi. Donc une fois que le cercueil est rentré dans le camion pour emmener au cimetière, nous on s'est tous rendus au cimetière aussi. De toute façon, pour l'enterrement, on était 15 personnes. On s'est vraiment limité en dessous du nombre qu'on nous avait dit, en fait. On nous a dit 20 personnes maximum, mais on était 15. On était vraiment tous espacés. Et après, donc il n'y avait pas de fleurs, parce que du coup les fleuristes étaient fermés malheureusement. On s'est vraiment contenté du strict minimum, quoi. On a eu un prêtre qui nous a fait une cérémonie dans l'allée principale. Donc il y avait le cercueil en plein milieu de l'allée, puis bah, nous qui étions autour, quoi. Donc on voit les membres de sa famille vraiment dans un mal total, mais on peut pas non plus les assister, quoi, malgré qu'on en ait envie, quoi. Je vois mes parents ou ma sœur aussi qui ont vraiment eu beaucoup de mal, quoi. Donc ils ont pas mal pleuré, quoi. Puis ça rend vraiment la scène assez bizarre, quoi, en soi. C'est vraiment triste, quoi. Les pompunettes ont porté le cercueil jusqu'à la tombe, en fait, tout simplement. Et ça s'est terminé là-dessus. On a échangé quelques mots pendant 5 minutes, et puis après, oui, on est tous repartis chez nous, quoi. J'avais mon véhicule personnel, donc j'ai accompagné ma sœur aussi, donc on était deux dans cette voiture-là. J'avais mon cousin et sa conjointe qui étaient dans le véhicule de devant, et j'avais aussi mon frère qui me suivait, dans sa voiture aussi. On est parti du cimetière de Guibray pour se rendre vers Caen, et là on s'est fait arrêter au rond-point de Carrefour, donc c'est-à-dire à quoi, même pas un kilomètre du cimetière. Ils arrêtaient vraiment tous les véhicules qui passaient. Juste devant moi, il y avait le véhicule de mon cousin, donc c'est le premier à avoir été arrêté, donc moi je me suis arrêté sur le côté pour savoir exactement ce qui se passait. Et là, je vois la conjointe de mon cousin qui était en train de se faire viser sur la voiture. Donc, je descends dans mon véhicule tranquillement. Je demande aux gendarmes, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Un monsieur qui devait avoir à peu près la trentaine. Donc, pour lui, c'était inadmissible d'assister à un enterrement parce que pour lui, il n'y avait aucun lieu d'avoir des réunions familiales pendant cette période-là. Je commence à expliquer. Je fais, excusez-nous, monsieur, on sort d'un enterrement. On a une autorisation de la part de l'hôpital et des pompunades pour le faire. Pour moi, je suis vraiment dans les règles, quoi. Enfin, je fais, nous, on a tout fait pour les respecter. Bon, du coup, ils commençaient un petit peu à dire oui, mais vous comprenez pas. Dans le grand test, actuellement, ils n'enterrent pas leurs morts. Limite, ils sont en train de les brûler. Donc, sa collègue a vu qu'il avait du mal à gérer la situation. Il est venu aussi lui prêter un coup de main pour nous mettre d'autres contraventions au passage et pour essayer d'apaiser la situation parce qu'elle voyait vraiment que son collègue commençait vraiment à avoir des propos un petit peu forts envers nous, en fait. Il prenait pas de pincettes. Pour nous, en fait, il n'y avait pas lieu qu'on ait une amende parce qu'en soi, on avait donc les papiers donc, pour l'enterrement. Et en plus, on avait notre justificatif de sortie, en fait, si vous voulez. Donc, il y avait bien la case cochée impériaux familiaux. Ils nous ont dit que bah, c'était pas valable et nous mettaient quand même l'amende, tout simplement. J'ai demandé d'essayer de nous comprendre, en fait, vu la situation, quoi. Enfin, disons qu'il y a un moment, il faut être un petit peu humain avant de faire passer la loi, quoi. Enfin, surtout que nous, on a respecté la loi en soi. Enfin, pour nous, on n'était vraiment pas. Il n'y avait vraiment pas lieu qu'on reçoive une contravention, quoi. Donc le ton commençait un petit peu à monter du côté des gendarmes, parce que franchement, c'était vraiment très très calme tout le long de la contravention, en fait. Je travaille dans le commerce, en fait, j'ai vachement de patience, quoi, en soi. Et mon frère, du coup, qui appelle directement donc, la mairie de Falaise. Et la mairie ne comprenait pas du tout ce qui se passait, en fait. Pour eux, il n'y avait pas lieu du tout d'avoir une contravention. Ma sœur, elle appelle directement la préfecture de Caen. Donc pareil, la préfecture de Caen ne comprenait vraiment pas le comportement des gendarmes et tout. Donc ma sœur, quand elle est sortie du véhicule, là le ton commençait vraiment à monter entre donc, les gendarmes envers nous. Ils avaient déjà verbalisé 4 personnes donc, de ma famille. Le ton est très monté. Et ma sœur, d'un seul coup, s'est vraiment mis à éclater en sanglots. Et là, en fait, ce qui s'est passé, vraiment une situation vraiment très très étrange, c'est que les gendarmes ont abandonné et sont partis en fait sur un autre cas. En fait. Ils nous ont laissés pour compte sur le trottoir, en fait. On n'a vraiment pas compris sur le coup. Sur les 6 personnes qui étaient dans le rond-point, on a été 4 à avoir reçu une amende, en fait, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de verbaliser 2 autres personnes. On n'a même pas eu de papier par lequel on a eu une amende. Si vous voulez, ils nous ont rempli les papiers sur leur véhicule, ils sont repartis avec leurs papiers. Ça fait 4 x 135, donc ça fait 520 €, quoi, à peu près. J'attends tous les jours devant ma toilette pour savoir si je vais recevoir mon amende ou pas. Je compte tout faire pour l'annuler. Enfin, pour moi, il n'y a pas lieu de payer une amende pour cette raison-là, quoi. Je suis toujours dans l'incompréhension, sachant qu'en regardant les informations encore hier, ils nous autorisaient à procéder à des enterrements à 20 personnes maximum, quoi. Et je me dis, mais pourquoi on a reçu une amende, quoi ? J'ai jamais eu une seule amende de ma vie. La première que je reçois, c'est pour avoir enterré ma grand-mère, quoi. Là, sur le coup, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule, quoi.
Allô. Eh ben moi je m'appelle Laura. J'ai quoi ? J'ai 31 ans. J'habite en Ariège, dans les Pyrénées, à 1 heure au sud de Toulouse. J'habite sur une ferme collective. Donc moi là je suis confinée, mais je suis confinée sur 38 hectares. Je suis dehors au soleil, en face de la forêt, entourée de chiens et de brebis. Et ouais, je passe toute ma journée dehors à faire des clôtures, essayer d'amener l'eau aux brebis, faire tout ce que j'ai à faire sur la ferme. Donc c'est un confinement assez spécial où j'ai besoin d'une attestation pour aller d'une parcelle à l'autre de ma ferme parce qu'il y a des patrouilles mobiles de flics qui contrôlent les paysans apparemment. C'est assez étrange. Et voilà. Depuis une dizaine d'années, j'élève des brebis avec Mélanie. Alors on a à peu près 80 brebis. On élève les agneaux pour la viande et pour la laine. On est en bio et on fait de la vente directe. Ça veut dire qu'on vend nos agneaux découpés sous vide en colis. Quand on a appris l'annonce du confinement, moi, ça m'a fait un peu stresser par rapport à mon activité. Là, c'est les mises bas, donc c'est vraiment particulier où on fait du 7h30, 19h30. Enfin, là, nos brebis, elles mettent bas une soixantaine d'agneaux. Il faut vraiment être tout le temps là, en fait. Le premier jour du confinement, ma première peur, c'était surtout par rapport aux rations, parce qu'en fait, on a subi 2 années de sécheresse et qu'on a de la mauvaise herbe pour nos brebis et que du coup, on a dû les complémenter en luzerne. On a appelé toutes les coopératives agricoles, on a dû aller quand même assez loin pour trouver de la luzerne. Ça m'a fait flipper. Après, moi, ce qui m'a rendu folle de rage, hein, c'est après l'annonce du gouvernement qui ont interdit les marchés de producteurs et qui ont gardé les grandes surfaces ouvertes. En fait, encore une fois, c'était la victoire de la grande distribution et de l'agriculture industrielle qui crée ces putains de maladies, qui crée ces putains de crises sanitaires et qui gagne jusqu'au bout, quoi, et qui écrase les paysans jusqu'au bout. Mais moi, ça m'a rendu complètement folle de rage. Et surtout, j'ai pensé à tous mes potes paysans, paysannes qui vivent des marchés. De quoi ils allaient vivre? Comment? Et puis surtout, qu'est-ce qu'allait devenir toute cette bouffe qui était produite? Tout s'effondre, quoi. Et c'est des milliards et des milliards de yaourts, de fromages, de légumes qui vont périr comme ça. Et en fait, les gens, ils vont acheter leur bouffe au supermarché. Ils vont acheter des salades à bio à 2 euros à la Biocoop qui viennent de Pétaouchnac. Enfin, ça avait juste pas de sens, en fait. 2 mois sans marché, en fait, ça peut asphyxier une femme. Enfin, vraiment. J'ai d'abord appelé tous mes voisins et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, il y a tant de fromages à vendre cette semaine. Bah, nous, on va chercher les fromages, on fait les commandes, on fait la distribution. On a fait ça la semaine dernière. C'était plutôt chouette. On a réussi à écouler l'équivalent d'un marché pour des copains producteurs de fromages. Alors, c'est pas vraiment des marchés clandestins, c'est pas du tout des marchés même. Parce que ça nous semble quand même important de pas rassembler les gens à un endroit. Mais ce qu'on a fait, c'est on essaie de mettre en place un système de commande, de panier en fait. C'est une chose plutôt chouette. Après, c'est quand même fou que tout le monde se rende compte que oui, on habite à la campagne et oui, tous nos voisins sont paysans en fait. Et oui, tous nos voisins produisent de la bouffe. Il faut quand même passer par une crise sanitaire pour se rendre compte de ça. C'est dingue. De toute façon, en fait, on sort. Moi, je suis sortie 2-3 fois depuis le début du confinement. C'est plus compliqué de voir mon copain qui habite à 20 minutes de route qu'il faut que j'ai une attestation et qu'il faut que je monte à des flics. En fait, le truc, si tu te fais contrôler par les keufs, ce qui est rigolo à faire, les gens d'habitude, ils montent leur attestation à travers la fenêtre. Là, tu ouvres la fenêtre et tu sors de la fenêtre et tu lui tends ton attestation, genre méga près de lui, il va faire déjà 3 bonds en arrière. Il va te dire oui, c'est bon, passé. Après, il y a quand même un réseau en Ariège participatif qui indique où est-ce qu'il y a des contrôles de police et c'est assez facile de les éviter. Le territoire est trop vaste et trop peu peuplé pour qu'il puisse être totalement contrôlé, en fait. Enfin, les gens circulent quand même. Si Sinon, l'histoire du confinement, c'est plus les copains qui sont arrivés comme ça à la ferme pour les copines pour venir se confiner. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ça a commencé avec Marianne qui a débarqué alors qu'on était en réunion, qui débarque de Toulouse sans prévenir et qui nous dit « Salut, demain c'est le confinement, je peux rester chez vous ?» C'est quand même un cadre de vie assez confortable. Être confiné sur 38 hectares plutôt que dans un studio à Toulouse. Et nous, on était un peu pris au dépourvu parce qu'il y avait deux amis de Paris qui nous avaient déjà appelés pour éventuellement venir chez nous. Et sauf que nous, on a un habitat léger, on a quand même un espace super limité. Sur le principe, nous, il n'y avait pas de problème d'accueillir plein de gens, mais il fallait que les gens soient un peu autonomes en habitat. Finalement, on se retrouve à 5. On s'est dit, de toute façon, en fait, on est dans une telle promiscuité. Les gestes barrières, nous, on a laissé tomber, hein. Notre yourte collective, elle fait 25 mètres carrés. En fait, on peut pas se croiser. Deux personnes ne peuvent pas se croiser sans se toucher. Donc, ce qu'on s'est dit plutôt, nous, c'était que on faisait très attention vis-à-vis des personnes de l'extérieur. Donc, il y avait le minimum possible de personnes de l'extérieur qui venaient sur la ferme. Et que nous, on côtoyait au minimum des gens de l'extérieur. Et que quand on venait de l'extérieur, ben, on se lavait les mains et... Moi, pour ma part, ce que je perçois directement autour de moi et de mes voisins, les gens quand même s'en foutent pas mal, quoi, de ce qui se passe. Enfin, je trouve que c'est quand même pris vraiment très très à la légère. Et bien qu'ils respectent le confinement, bon, c'est pas quelque chose de très très grave qui se passe. Ça va passer et puis voilà, ça redeviendra comme avant.
Spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling. When you're high, but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate them.
C'était Le Corona et ceux qui sortent, un reportage de Clément Baudet réalisé par Yaël Mandelbaum et mixé par Delphine Baudet. Merci à Bruno, Laura, Benjamin, Clément Combe, Marie Petit et Emmanuel Crapet. Roxane Poulin, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Djeriwi, c'est notre stagiaire.
Always trying to figure everything out, and all I do is say sorry. Half the time I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down, but when I'm flying, no, it make them so comfortable, so different. What's the difference when it ain't that bad? It could always be worse. I'm running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work.